RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, il y a 50 ans, un nouveau pouvoir s'installait en Centrafrique, celui de Jean Bedel Bokassa, le colonel putschiste qui a renversé David Dacko lors du coup d'État du 31 décembre 1965. 50 ans plus tard, de nombreux points d'interrogation persistent sur l'attitude de la France avant, pendant et après ce coup d'État. Les archives de Jacques Faucard, conseiller du général de Gaulle pour les affaires africaines, fournissent quelques réponses. Laurent Corot a pu consulter des documents devenus disponibles depuis le 1er janvier dernier. Certains sont des inédits. Voici son reportage.
1er janvier 66, Bangui émerge à peine de la soirée de réveillon. Elle apprend que le pouvoir a basculé. Une voix qui s'échappe de poste de radio grésillant vient annoncer la nouvelle. C'est celle de Jean Bedel Bokassa, le chef d'état-major de l'armée centrafricaine.
Centrafricaine, depuis ce matin à 3h20, votre armée a pris le pouvoir de l'État. Le gouvernement Dacko est démissionnaire. L'heure de la justice a sonné.
Les événements se sont précipités dans la soirée et dans la nuit. Le chef de la gendarmerie, le commandant Isamo, a été arrêté par les putschistes. David Dacko, le président, a été capturé et a dû signer sous la dictée du capitaine Alexandre Banza une lettre par laquelle il a remis ses pouvoirs à Bokassa. Des obstacles ont été dressés sur la piste de l'aéroport pour empêcher toute intervention française depuis Fort Lamy, au Tchad. Un barrage a également été dressé en ville. Un Français a été tué en essayant de le forcer. En se rendant à l'hôpital en pleine nuit pour obtenir des informations à son sujet, le colonel Mehé, l'attaché militaire de l'ambassade de Bangui, croise Bokassa qui lui raconte le coup. Les explications de Jean-Pierre Batte, conservateur du fonds Faucard aux Archives nationales.
La scène est décrite par Mehé lui-même. Bokassa se jette dans ses bras avec effusion et lui confirme qu'il vient de prendre le pouvoir. Seule solution, d'après lui, pour remettre l'ordre dans l'État. Aussitôt, Mehé lui demande ce qu'est devenu le président Dacko et Bokassa lui garantit qu'il va protéger sa famille et qu'il est garant de sa sécurité et de sa santé. Bokassa dresse ensuite un tableau de la situation du coup d'État. Quelques arrestations des ministres, des députés, la neutralisation des agents de la brigade de sécurité intérieure et la fuite de Mounoumbaï, chef de cette même sécurité intérieure. Afin de donner des gages à la France, il ajoute qu'il donnera un ultimatum de 48 heures à la Chine populaire pour quitter le territoire centrafricain.
Pourquoi Bokassa s'est-il emparé du pouvoir en cette nuit de la Saint-Sylvestre? Le colonel putschiste donne très vite sa version des faits.
Étant donné la faible situation financière du budget centrafricain, les peuples, à l'unanimité, ont manifesté leur mécontentement. Et le chef d'état-major, le colonel Jean Bedel Bokassa, a été sollicité par plusieurs centaines de milliers de ces peuples afin de prendre la direction des affaires du pays parce que ce peuple a plus confiance aux militaires car ce peuple en avait assez avec les détournements que l'État centrafricain ne poursuivait pas.
La version défendue par Bokassa, celle d'un renversement du pouvoir voulu par le peuple face à un État corrompu, n'est qu'une mise en scène politique. Elle comporte pourtant une part de vérité. Le pouvoir centrafricain a été plongé dans une telle crise qu'il a fini par imploser. C'est le fil de cette histoire que nous allons suivre ensemble. En 1964, les finances de l'État centrafricain sont au plus mal. Le budget 65 sera bloqué à quelque 6 milliards de francs CFA. Le président Dacko annonce à chaque ministre un plafond de dépenses indépassable. Pour tenter de renflouer les caisses, les autorités de Bangui ont négocié, dans le plus grand secret, un rapprochement avec Pékin. Le 29 septembre, à l'occasion de la signature d'accords de coopération sino-centrafricains, le vice-ministre chinois du commerce extérieur annonce l'établissement prochain de relations diplomatiques. Les autorités françaises tombent des nues. Les échanges de l'époque entre l'ambassade et Paris rendent compte de cette surprise. Jean-Pierre Batte, conservateur du fonds Faucard.
Ce qui est intéressant dans ce lot de télégrammes diplomatiques, c'est que la France découvre à retardement les négociations secrètes entre la Chine et la Centrafrique. En d'autres termes, la France a été complètement tenue à l'écart des négociations diplomatiques avec Pékin. Dans un des télégrammes diplomatiques en date du 29 septembre 1965, l'ambassade de France écrit d'ailleurs de manière très explicite, cette évolution dans l'attitude de la RCA avait été soigneusement tenue secrète et rien n'avait filtré dans l'entourage des conseillers du président. Selon l'ambassade de France d'ailleurs, la décision de Dacko aurait été prise tardivement, quelques jours à peine avant la déclaration du ministre chinois. Selon le télégramme diplomatique, Dacko semble ne s'être décidé que très tardivement sous la pression de ses habiles partenaires qui ont dû faire miroiter à ses yeux les avantages d'une importante assistance financière.
Le président Dacko a agi en toute discrétion. Il tiendra pourtant à expliquer son geste aux autorités françaises dans un entretien qui a lieu moins de 2 semaines plus tard avec un officier français. Le compte-rendu de cette rencontre est conservé aux archives nationales. Jean-Pierre Batte.
On a ici un télégramme diplomatique en date du 13 octobre 1964 qui est le compte-rendu d'un entretien de Dacko avec un officier général français, dans lequel Dacko confesse qu'en reconnaissant le gouvernement de Pékin, il donnait satisfaction aux aspirations des éléments jeunes de son entourage, ça s'appelle la Junta, et a permis à son pays d'apparaître moins dépendant. Toutefois, en termes de politique internationale, Dacko refuse les thèses du non-alignement, ou tout au moins de rejoindre l'alliance progressiste chinoise. Ça ne signifie pour lui ni plus ni moins que la diversification des relations avec le reste du monde. En mode mineur, il annonce à la France qu'il ne trahit pas le camp français en se rapprochant de la Chine populaire. L'officier général qui s'est entretenu avec Dacko est convaincu que ce développement de la politique centrafricaine internationale ne réduit en rien l'attachement de la Centrafrique à la France, ni ne laisse présager d'aucune désaffection ou décrochage. Dacko lui-même a réaffirmé son amitié, c'est-à-dire ses liens politiques, avec la France.
Pas de rejet de la France, mais une volonté de diversifier les relations diplomatiques de la Centrafrique. En juin 65, le président centrafricain réaffirme sa position devant la presse.
Les puissances étrangères voudraient que nos faibles pays se mettent directement dans leur sillage politique, ce qui n'est pas possible, car l'Afrique doit être avant tout africaine. Et la République centrafricaine veut, au centre de l'Afrique, faire exception. Le fait de tendre la main aux différents peuples du monde ne veut pas dire qu'on écarte immédiatement tout ce qu'on a eu comme ami politique ou bien comme assistant politique par le passé. Hein, ce que nous voulons en République centrafricaine, c'est faire un État neutre. Neutre pour toutes les puissances du monde. C'est cette expérience qui me hante.
Les relations de Bangui avec la Chine deviennent pourtant progressivement un levier de pression diplomatique vis-à-vis de la France. Jean-Pierre Batte.
Depuis 1964, le précaré a connu un cycle de coups d'État et Dacko en vient à son tour à redouter d'être la cible d'un complot. À cette fin, il aimerait compter sur la protection française qui lui semble encore trop tiède à cette date. Il redoute des infiltrations extérieures par les frontières ou une subversion intérieure. Et il le dit lui-même, il souhaiterait pouvoir appeler la France au secours et avoir comme garantie que la France interviendrait sur le champ en cas de besoin. Faute de cette garantie, il ne cache pas à l'ambassade de France qu'il ira chercher d'autres contre-assurances en regardant notamment vers le Congo-Brazzaville et qu'il usera à cette fin, et bien qu'il n'en ait guère envie, des bons offices chinois.
Le chantage chinois de Dacko a-t-il contribué à le décrédibiliser auprès des responsables français? Le fonds Focard ne le dit pas. Il dessine simplement une France en manque de certitude sur Dacko, en raison notamment des luttes de tendance au sein du parti au pouvoir, le MESAN, et de l'influence de la tendance progressiste que le président est tenté d'écouter. Une situation sur laquelle l'ambassade de France à Bangui revient dans un rapport sur l'état de ce mouvement pour l'évolution sociale de l'Afrique noire.
Le constat est clair, le parti est divisé entre 2 tendances, l'une autour des conservateurs, organisée par Adama Tambou, le président de l'Assemblée nationale, et l'autre, que l'on appelle les jeunes intellectuels progressistes, qui représentent l'aile dynamique et agressive du parti selon les mots de l'ambassade de France, et qui prête surtout une oreille intéressée à la propagande communiste, surtout si elle émane de Pékin. David Dacko doit arbitrer ces 2 tendances, et l'ambassade de France trouve qu'il entretient des sentiments mêlés, puisque la virulence de la contestation des jeunes intellectuels ne le laisse pas indifférent et il ne trouve pas les moyens de leur résister.
David Dacko doit aussi gérer des conflits qui s'installent au sein des forces armées, des rivalités accentuées par le manque de moyens. Jean-Pierre Batte.
Dans le Fofocar, on trouve un dossier qui s'appelle le dossier Bijar, qui est en fait la mise en place de la réforme de l'armée centrafricaine. Bijar, l'ancien célèbre officier de Dien Bien Phu et d'Algérie, est envoyé à Bangui pour mettre en place ce qu'on appelle le plan raisonnable, c'est-à-dire la création d'une armée économique. La devise qu'il attribue à l'armée centrafricaine en dit long: discipline, abnégation, souplesse, esprit pionnier. Bijar a pour mission de recadrer dans un budget très serré la constitution de l'armée centrafricaine. Alors ceci a différentes conséquences. Premièrement, le fait que l'armée ne sera pas très puissante. Deuxièmement, qu'un conflit structurel va naître entre l'armée de terre, qui est censée mener les opérations extérieures, et la gendarmerie, qui est une véritable police armée territoriale. La gendarmerie sera dirigée par Isamo, et normalement, un poste est créé pour un chef d'orchestre général, comme le montre l'organigramme sous nos yeux, le chef d'état-major de la défense nationale, qui sera Jean-Bedel Bokassa. Des guerres d'officiers vont commencer à naître tout au long de l'année 1965. Il va donc y avoir un double mouvement. D'un côté, la constitution d'un groupe sécurocrate auprès du président Dacko, notamment organisé par les forces de sécurité spéciales et la gendarmerie. Et de l'autre, des officiers frustrés de l'armée de terre qui vont se replier autour de Bokassa et de Banza.
Le coup naît de ces tensions entre factions au sein de l'État, craignant sa mise à l'écart, voire son élimination, et furieux de voir le déséquilibre budgétaire qui s'installe entre les fonds alloués à l'armée de terre et à la gendarmerie, Bokassa décide de passer à l'action. En dépit de l'ambiance révolutionnaire qui prévaut dans la région au milieu des années 60, en dépit des rumeurs de coups d'État à répétition en Centrafrique, la France n'a pas pris de disposition pour protéger Dacko. Le contraste avec le Gabon ou le Niger de l'époque est saisissant. La France a laissé le régime de David Dacko s'effondrer. L'a-t-elle fait par choix politique ou par défaut de renseignement? Les informations reçues de Bangui se sont en tout cas considérablement appauvries en 1965.
Il ressort des archives Focar, en comparant les années 64 et 65, que pour cette dernière année, il manque cruellement d'informations et qu'il n'arrive pas à capter l'esprit du temps, les évolutions de la vie politique centrafricaine. À ceci, deux explications. Premièrement, le changement d'ambassadeur. Barbereau était un homme de Focar, Jean Français est un homme du Quai d'Orsay. Jean Français adresse beaucoup moins de courriers confidentiels à Jacques Focar, directement comme le faisait Barbereau. Deuxième explication, la fermeture pour raison budgétaire le 31 décembre 1964 du poste des services secrets français, le SDEC, qui rend la France extrêmement aveugle et sourde puisque le poste était le principal fournisseur d'informations pour Roger Barbereau et pour la France. La France n'anticipe pas le coup d'état de la Saint-Sylvestre 1966, mais va chercher à courir après les événements pour les orienter au mieux de ses avantages à travers la figure de Jean-Bedel Bokassa.
Beaucoup a été écrit sur le rôle de Focar et de ses réseaux dans le coup d'État. Certains affirment que Bokassa aurait été discrètement encouragé par la France avant son putsch. Les documents que RFI a consultés n'apportent aucune réponse sur l'existence ou non de ces encouragements français. Un fait, en revanche, est établi. En dépit de la doctrine sur la sécurité du précaré qui s'est forgée depuis 63, la France n'a pas jugé nécessaire d'intervenir dans les heures et les jours qui ont suivi le coup d'État. Dès le 1er janvier, Focar explique au général de Gaulle que Bokassa est un officier qu'il connaît bien, très francophile. La réflexion qui se met en place au sein du pouvoir français dans les jours qui suivent obéit au même raisonnement. Le coup d'État de Bokassa n'est pas nécessairement une mauvaise chose pour la France.
Une note du ministère de la Coopération, en date du 3 janvier 1966, adressée à De Gaulle, dresse un portrait psychologique de Bokassa. Bokassa, ancien capitaine de l'armée française venu du rang, est un homme fruste, de formation primaire, officier supérieur, qui a de plus une conception assez souple de l'honnêteté. Cependant, profondément marqué par son passage dans l'armée française, il semble être resté très attaché à notre pays. Du moins, il le proclame ouvertement devant ses subordonnés et ses concitoyens au cours de conversations privées et même d'allocutions officielles. Francophile dans ses propos, Il est parfois sujet à des poussées de francophobie brutales, maladroites et imprévisibles, en particulier avec les membres de l'assistance militaire technique. Malgré ses sautes d'humeur, semble être réellement pro-occidental. La France connaît les travers, les dérives psychologiques, politiques du personnage, mais c'est surtout qu'au-delà d'être pro-occidental, c'est le meilleur partisan de la cause française, de la cause du précaré en Centrafrique.
Cette note est accompagnée d'un mot manuscrit qui en dit long sur la ligne adoptée par la France. Il est signé du ministre de la Coopération, Raymond Triboulet, et est adressé, lui, à Jacques Faucard.
Triboulet écrit « Je sais que les affaires étrangères préparent une déclaration réprouvant la prise de pouvoir de Bokassa. Elle risque de nous l'aliéner. Je propose plutôt le rappel du chef du bureau d'aide militaire. Il travaille avec Bokassa et celui-ci verra dans cette sanction un reproche indirect de son attitude. Bien à vous. » Autant dire que la France non seulement tolère, mais cherche à encadrer le pouvoir de Bokassa dans les jours qui suivent son putsch.
Un texte relu et corrigé par Charles de Gaulle est finalement envoyé à l'ambassadeur de France en Centrafrique. Il lui demande de limiter au maximum les rapports avec le nouvel homme fort en attendant que les pays africains amis se soient prononcés sur le coup d'État. Au cours de ce mois de janvier, Faucard lui sélectionne un officier pour aller à la rencontre de Bokassa et nouer les premiers liens franco-centrafricains du nouveau régime. Archive Faucard, pourquoi la France a laissé faire le coup d'État de Bokassa, un reportage de Laurent Corot, réalisé par Swell Kedir.
Bonjour Laurent Corot.
Bonjour.
On retrace avec vous au travers des archives du Fonds Faucard l'histoire de ce coup d'État de Bokassa. Alors que nous apprennent de neuf les documents que vous avez pu consulter aux archives nationales?
Eh bien d'abord, ils prouvent que la France, dès 65, a une image très claire de qui est Bokassa, de ses travers, de son instabilité personnelle, de son honnêteté toute relative. Et elle s'en accommode parce qu'elle trouve une qualité essentielle à cet officier putschiste, il est francophile. Cela apparaît très clairement dans les documents du Fonds Faucard. Bokassa n'est pas un putschiste comme les autres, il a été profondément marqué par son passage dans l'armée française et il semble être resté très attaché à la France. Cela lui donne un statut à part. En dépit de la sympathie que de Gaulle éprouvait pour le président déchu, David Dacour, en dépit de la volonté du ministère français des Affaires étrangères de condamner le coup, plusieurs responsables politiques français, dont Faucard, parviennent donc à faire pencher la balance du côté de la neutralité, du côté même, on pourrait dire, d'une forme de bienveillance vis-à-vis de Bokassa. Et c'est cette bienveillance très précoce que mettent bien en évidence les archives de Faucard, de même que les mémoires de Jacques Faucard.
Mais qu'est-ce qu'on apprend avec le Fonds Faucard sur la place de la Chine populaire dans cette crise centrafricaine?
Alors, on découvre dans ces documents à quel point Paris est pris au dépourvu par le rapprochement qui se produit avec la Chine populaire en septembre 64. Les annonces qui ont lieu à Bangui surprennent les Français et on peut se demander si cette démarche qui était restée secrète du pouvoir centrafricain n'a pas contribué à éloigner justement le président David Dacour des autorités françaises.
Et la France, par la suite, va donc accompagner, encadrer le pouvoir de Bokassa.
Voilà, Paris va effectivement rester très longtemps sur la ligne qui s'est dessiné dans les jours qui suivent le coup d'État. Fin 1966, le colonel May du 2e bureau à Bangui, qu'on croise d'ailleurs à un moment dans ce reportage, écrit dans son rapport annuel que selon lui, l'intérêt de la France est de faire en sorte que le colonel Bokassa reste au pouvoir aussi longtemps qu'il saura demeurer suffisamment raisonnable. Alors, la formule évidemment est surprenante quand on sait à quel point Bokassa a poussé le pouvoir personnel et la violence. La France va même l'aider à satisfaire un caprice, celui du sacre impérial en décembre 1977. Et en fait, il faudra le massacre d'écoliers en janvier 79 pour que Bokassa soit lâché et qu'il soit finalement déposé le 21 septembre 79 par l'armée française lors de ce qu'on a appelé l'opération Barracuda. Et là, donc, ironie de l'histoire, eh bien, la France remet au pouvoir David Dacour, le président qu'elle avait laissé tomber au moment du coup d'État de la Saint-Sylvestre.
Archive Faucard, pourquoi la France a laissé faire le coup d'État de Bokassa? Votre grand reportage, Laurent Corot, est à retrouver sur RFI.fr. Et j'ajoute que certains des documents que vous avez cités seront publiés dans les jours qui viennent en exclusivité sur le site internet de RFI.